Au gré du temps, passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Notre invité cette semaine, je l'ai connu à ses débuts en journalisme. C'était en 1984 à CHOT-TV dans l'Outaouais. Sa rigueur et son professionnalisme lui permettront de devenir chroniqueur scientifique et médical. Il fera partie de l'équipe de l'émission Découverte pendant plus de 20 ans, où il produit de nombreux reportages dont on souligne l'excellence dans plusieurs concours et festivals, tant au Canada qu'à l'étranger. Cet auteur d'essais scientifiques et également pianiste-compositeur a bien voulu accepter notre invitation de se joindre à nous aujourd'hui. Un plaisir d'accueillir Michel Rochon. Bonjour Michel.
Bonjour Armand. Ça remonte à loin nous deux, ouais.
Hey, je pense qu'on ne s'est pas vu depuis plus de 30 ans.
Oui, effectivement. On s'est vu au début, on se voit à la fin.
Mais on vous voyait quand même à la télévision oui. À travers le travail remarquable que vous avez effectué au cours de toutes ces années.
Trop gentil.
Particulièrement Découverte,
oui.
Où vous vous êtes intéressé à des sphères bien particulières de l'activité scientifique.
Oui, j'étais un peu fasciné par le cerveau. Ça, c'est peut-être à cause de ma formation de physiologiste à l'Université McGill, où j'ai fait des stages à l'Institut, à l'Hôpital de neurologie, qui est le neuro, que les gens connaissent un peu à Montréal. Oui. Et là, j'ai voulu examiner, en fait, pour moi, le cerveau représente un des trois grands Eldorados de la science. Il y a l'espace, il y a les grands abysses de nos océans, et il y a le cerveau, et on est encore loin de tout comprendre, mais Dieu que c'est fascinant tout ça.
C'est fascinant d'autant qu'il y a quelques jours, on voyait sur les grands réseaux les similitudes entre le cerveau et l'univers.
Oui.
C'était vraiment hallucinant de voir tout ce réseau neuronal et ce réseau d'énergie au sein des galaxies.
Oui.
C'est quand même curieux, vous ne trouvez pas?
C'est curieux, mais il ne faut pas se surprendre. Vous savez que la nature se répète d'une certaine façon. Les grandes structures et les petites structures souvent se retrouvent à se ressembler. Mais si effectivement l'univers existe depuis le nombre de milliards d'années qu'elle a, elle a réussi à avoir une certaine forme, que le cerveau ait certaines similitudes, moi je ne suis pas surpris. La complexité du cerveau est incroyable. Vous
nous
savez, 70 milliards de neurones
oui.
qui font jusqu'à 10 000 connexions entre elles, ces cellules-là, et se parlent tant sur le plan électrique que chimique. C'est absolument saisissant et c'est aussi complexe, si vous voulez, que de façon générale, les grandes structures de l'univers.
À la blague, on pourrait dire qu'on est peut-être le neurone d'un grand système.
Oui, il ne faut pas rentrer là-dedans, par exemple. Le
non,
problème,
absolument
ouais.
pas.
Oui. Mais philosophiquement, effectivement, c'est une porte ouverte pour les philosophes à aller peut-être explorer cet univers-là de ses similitudes. Mais bon, je ne sais pas jusqu'où on peut aller sur le plan scientifique avec ça, par contre.
Mais toujours est-il que ouais. c'est un secteur qui vous a vraiment oui. fasciné, qui vous a permis aussi de rencontrer des illustres scientifiques. Oui. Je pense par exemple à Henri Laborite.
Oui.
Que vous avez eu le plaisir et le bonheur de connaître.
Oui, j'ai fait son portrait pour Radio-Canada à la télévision. Et dans mon récent livre, L'amour, la haine et le cerveau, je lui rends hommage. Parce que ses travaux se sont un peu perdus dans les années 90 et je les fais revivre. Je me pose la question, s'il était vivant aujourd'hui, avec tout l'appareillage sophistiqué que l'on a pour voir maintenant le cerveau en action, il aurait fait probablement des découvertes incroyables lui-même.
Et vous racontez avec presque tendresse que Henri Laborite était quand même quelqu'un de sympathique, malgré une réputation
oui.
qui ne
ouais.
le suivait pas dans cette direction-là.
Exact. Et c'est la même chose pour le pianiste Keith Jarrett. On y reviendra. Des,
oui.
des gens qui publiquement, effectivement, donnent une impression de froideur. Et bon, il était reconnu pour être légèrement pompeux, ce docteur
oui.
Henri Laborite. Mais moi, j'ai passé une journée avec lui, là. Et je crois que l'entrevue, mais vous savez, on fait ça actuellement tous les deux ensemble. Mais vous savez que c'est magique. Il y a des choses qui peuvent se passer dans cette espèce d'intimité artificielle où il s'est vraiment livré à moi, dans ses faiblesses, dans les choses pour lesquelles il s'est senti déçu. Donc, je crois que j'ai percé un peu l'homme, ça arrive.
Alors, histoire de se prédisposer à entrer dans cet univers intimiste où on se parlera de vraies choses, on part avec un choix musical assez colosse, j'ose dire. Et la première pièce que vous nous proposez, que nous entendrons, d'ailleurs, le mouvement, nous l'entendrons au complet, c'est le troisième mouvement du concerto numéro 5 de Beethoven. Pourquoi donc?
Pour plusieurs raisons, parce que, comme je l'ai dit dans mon livre et je vous le dis maintenant, Beethoven m'a marqué à l'âge de 9 ans. Et moi, comme pianiste, il était ma marque. C'était l'homme que je voulais interpréter le plus souvent, premièrement. Et deuxièmement, là, on va entendre Glenn Gould. Glenn Gould, comme la plupart des jeunes pianistes, c'est un modèle, c'est un iconoclaste, c'est un homme qui a brisé les règles et les façons de jouer. Alors, ce qu'on va entendre ici, c'est un vieil enregistrement avec Stokowski. Et vous allez voir, il n'est pas régulier, il n'est pas standard, il ne fait jamais ça de la même façon que les autres. Il change les tempi, il utilise les pédales de façon différente, il innove. Il est toujours en train de chercher. Et c'est cette quête-là, moi, qui me fascine. Tous les hommes et les femmes qui m'ont marqué, c'est des gens qui avaient des quêtes et qui voulaient faire les choses de façon différente.
On vient d'entendre le troisième mouvement marqué Rondo Allegro ma non tanto du concerto pour piano numéro 5, dit concerto empereur de Ludwig van Beethoven, proposé par notre invité du jour, Michel Rochon. Ouais. Michel, on a parlé de vos quêtes, de vos secteurs d'activité au plan de la recherche. On a peu parlé de vous si on revenait justement à cette carrière. On l'a dit, vous l'avez amorcée curieusement après avoir fait des études dans un domaine tout autre.
Oui, effectivement, la science, la physiologie, donc l'étude du corps humain. Et puis après ça, j'ai fait donner un coup de tête magistral. Je suis allé étudier en cinéma. Ma mère ne comprenait absolument rien, mais je lui dis, mais c'est l'art total, c'est l'ensemble, c'est l'équivalent, c'est l'opéra du 20e siècle, le cinéma, c'est la synthèse de toutes les formes artistiques. Je ne comprenais rien. Alors, une fois que j'ai terminé tout ça, j'ai eu la chance dans ma vie de prendre ma formation scientifique et ma formation de cinéaste et de les amalgamer en produisant des documentaires pour la télévision en sciences. Donc, pour moi, j'ai baigné ma formation, m'a permis d'exécuter ce que j'ai appris à l'université.
Et si on revenait au plan familial, vous êtes enfant unique.
Oui.
Votre père était ingénieur, je crois.
Oui, absolument. Naval, ingénieur civil, mais il a fait des bateaux toute sa vie au chantier maritime de Sorel, qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, était le producteur, n'est-ce pas, des bateaux de guerre pour la cause alliée.
Mais pour un enfant, c'est extraordinaire. Oui. Ça lui permet de naviguer dans son imaginaire.
Ah, à tous les week-ends, il m'amenait dans le chantier. Je voyais ces immenses navires là, qui étaient pour moi des monstres. Il m'amenait à bord des bateaux, on faisait des bouts de chemin ensemble, on naviguait, alors c'était pour moi extraordinaire.
Et vous avez déjà, à ce jeune âge, imaginé peut-être qu'un jour vous auriez probablement un profil différent de la moyenne?
Peut-être, je sais pas. J'ai commencé le piano à 9 ans et à 15 ans, j'ai assis mes parents dans le salon et je leur annonçais bien fièrement que je voulais devenir pianiste. Et là là, que papa n'a pas aimé ça. Papa dit, oh là là, il dit, tant que t'es dans la maison ici, mon garçon, t'es bon en sciences, tu vas continuer en sciences. Et aujourd'hui, je le remercie énormément de m'avoir finalement aiguillé en sciences, parce que vous savez, c'est pas facile de devenir pianiste de nos jours. Il y a beaucoup de compétition, c'est très ardu. Et là, moi, j'ai eu la chance, avec le métier de journaliste scientifique, de découvrir, d'être payé pour apprendre, de voyager, de rencontrer des gens. J'aurais pu le faire avec le piano, remarque. Mais là, le fait de le faire dans un contexte à Radio-Canada, avec les moyens qu'on avait, c'était pour moi, j'avais à refaire ma vie, je recommencerais de la même façon.
Thank you.
Michel Rochon nous disait qu'il était pianiste depuis l'âge de 9 ans. C'est une de vos œuvres qu'on vient d'entendre.
Ben, c'est une œuvre collective que j'ai composée avec un ami très cher à moi, Pierre Bondoc. Ça fait pas trop longtemps qu'on se connaît, ça fait 7-8 ans qu'on se connaît. Et ensemble, on a découvert qu'on avait des atomes crochus en musique. Lui-même a fait son conservatoire. Il était le chanteur du groupe Bondoc, un chanteur pop dans les années 90, pop-rock. Et il a arrêté de chanter professionnellement, mais il fait toujours de la musique. Et on s'est enfermé dans un studio. Et on a ouvert les claviers, on s'est mis à improviser, à composer ensemble, et ça a été un charme. On a fait un album sur la science, naturellement, ensemble.
Et voilà qui est justement assez fascinant, de faire ce lien entre votre esprit scientifique, oui, donc très rigoureux, très rationnel, et votre esprit artistique, la composition, oui, le piano, l'interprétation. Et vous venez d'écrire il y a déjà quelque temps, un livre qui s'appelait « Le cerveau et la musique », où vous rejoignez en fait ces deux, oui, volets de votre personnalité d'une, oui, certaine façon.
Oui, art et science. Quel beau mélange, art et science.
Oui. J'allais dire, on va y revenir parce qu'il y a tellement à dire. Oui. Puisqu'on va parler de musique et de cerveau, vous nous proposez une autre grande œuvre de Beethoven.
Oui.
C'est le deuxième mouvement de la 9e symphonie,
oui,
en ré mineur.
Rapidement, j'ai 9 ans, ma mère m'amène au magasin, elle me dit « Tu vas acheter ton premier disque, tes cours de piano commencent, qu'est-ce que tu veux ?» Je vois le buste de Beethoven sur une pochette, je l'amène à la maison, on met ce disque et je suis bouleversé, je pleure. Je découvre le génie de Beethoven.
Et on sait que cette œuvre, Michel, vous pourrez le confirmer, fait partie de ce qu'on appelle le patrimoine culturel de l'UNESCO.
Oui, absolument.
Parce que c'est une œuvre indicible.
Totalement, et c'est le 250e anniversaire de Beethoven et la pandémie nous empêche de vraiment avoir les spectacles à la mesure de cet homme-là. Donc c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi cette pièce, Armand, qu'on va écouter ensemble, parce qu'on soulignons donc cet homme qui a transformé la musique à cette époque.
Et sans faire de jeu de mots maladroit, on pourrait presque dire, comme vous le dites, à cause de la pandémie, on a été un peu sourd à cet anniversaire.
Oui.
Comme Beethoven a été sourd à cette 9e qu'il n'a, oui, pas entendu, paraît-il.
Il n'a pas entendu. J'ai écrit un texte à ce sujet. Il dirigeait sans savoir qu'est-ce qu'il entendait. Et on est obligé de l'arrêter à la fin parce que tout le monde était debout, hurlait, applaudissait. Et il s'est tourné, il continuait à diriger. Il croyait que l'œuvre est encore en cours. C'est très, très touchant.
Deuxième mouvement, Molto Vivace Presto, 9e symphonie Henri mineur, opus 125 de Ludwig van Beethoven, interprété par l'Orchestre symphonique de Londres sous la direction de Joseph Cripps, proposé par notre invité Michel Rochon. Alors Michel, on revient donc à votre livre. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites dans ce bouquin, qui a pour titre « Le cerveau et la musique », chez l'humain, le fœtus entend 20 semaines avant la naissance, beaucoup plus précocement que chez la majorité des animaux, dont certains n'entendent qu'à la naissance. Et tout ça va faire en sorte que chez l'humain, la musique prend une dimension presque spirituelle.
Bien, elle est spirituelle. La musique a émergé avant la parole. On croit qu'environ 100 000 ans, l'Homo sapiens, qui vivait en petite tribu, a commencé à développer une façon d'utiliser ses cordes vocales et le rythme. Boum, 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 les rituels, pour créer les rituels, que ce soit pour la guerre, que ce soit pour l'amour, pour les récoltes. L'Homo sapiens a commencé à entendre des choses et à les énoncer en utilisant la voix. Quand il a fallu nommer les choses, les objets, là, les consonnes, les voyelles sont arrivées, on a articulé, on a fait des conventions autour des objets. Ceci est un micro, ceci est un verre, on s'entend là-dessus. Mais avant ça, il y a eu la mélodie. et le chant de la mer. Alors, les mères, toutes les mères qui nous écoutent ce soir le savent, et les grands-mères, c'est cette espèce de langage enfantin qui si intime, qui est fait d'onomatopées, de mélodies improvisées et qui est ce lien fondamental, profond entre la mère et l'enfant, c'est la musique.
Et on sait qu'il y a des langues qui sont plus musicales que d'autres. Je pense par exemple à l'italien, très chanté à l'opéra. Oui. On dit que c'est une langue musicale.
Ah, totalement, et on étudie ça chez les enfants, entre autres. Alors, très, très, très tôt, chaque langue a ses mélodies, a son carnet de mélodies. Et c'est comme ça, souvent, que, et je le dis dans le livre, les études le démontrent, les musiciens ont la capacité, s'ils ont une formation musicale rigoureuse, d'apprendre n'importe quelle langue. Ils sont polyglottes. Ma conjointe est polyglotte, elle parle 5 langues. Et c'est comme ça que, parce qu'ils comprennent les structures langagières qui sont mélodiques.
Vous évoquez dans votre livre quelque chose qui est assez intéressant et bizarre à la fois. Vous parlez de l'île Gomera, une île oui. des Canaries, où oui. il y a une communauté de plus de 20 000 habitants qui pratiquent le silbo-gomero. Qu'est-ce que
oui.
c'est?
Alors, ces gens-là ne parlent pas, ils sifflent.
Mais ils réussissent à communiquer oui, en sifflant.
Oui, oui. Alors, il y a une communauté au Mexique également. Il y en a, on en a répertorié pas loin d'une douzaine à travers le monde. Alors, habituellement, c'est des gens isolés dans des petits villages, dans des montagnes. Et ils peuvent, en sifflant, vu que c'est des hautes fréquences, le signal voyage très bien et se rend d'une montagne à l'autre. Alors, dans ce cas-ci, dans les îles Canaries, c'est véritablement les notes des mots qu'ils disent normalement. Comme là, je vous fais... Alors, c'est ça qu'ils sifflent. C'est ce qu'ils sifflent normalement. Alors, ils parviennent à communiquer entre eux sans avoir des voyelles, les consonnes qui s'étiolent dans l'air avec uniquement le sifflement, une seule note. Très aigu, ça perce le ciel et ça se rend de l'autre côté.
Et on comprend mieux que la musique peut effectivement unir les êtres humains.
Ah, c'est de toutes les façons de communication, la musique, c'est l'outil universel pour s'unir.
Et puis là, on vient d'entendre Keith Jarrett, un musicien qu'adore notre invité Michel Rochon.
Oui.
C'était le prélude des fugues numéro 2 pour piano en La mineur, opus 87 de Shostakovich.
Oui.
Parlez-moi de Keith Jarrett. On vient de dire que la musique unit les oui. êtres humains. Keith Jarrett, par ses improvisations, a parfois mis des cultures différentes au même diapason. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus?
Oui, parce qu'il tend à l'universel. Alors, quand vous écoutez un concert de Keith Jarrett pendant 2 heures, il va s'asseoir et à partir de rien. C'est ça qui est le plus extraordinaire, là. Il n'y a rien de préconçu. Il arrive avec une page blanche devant lui, il s'assoit. Et il a, lui, une formation éclectique et universelle. Il s'intéresse aux musiques autochtones, il s'intéresse aux musiques du monde, il s'intéresse à la musique classique, qui en a composé et enregistré énormément, et au jazz, et au blues. Alors, il fait un amalgame de tout ça. Et de là jaillit une musique qui, moi, depuis l'âge de 16 ans, me poursuit, me pourchasse. J'ai ses 150 albums, je les écoute à tous les jours. Il me rejoint de façon universelle, je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de lui parler, je l'ai vu plusieurs fois en concert.
Quel homme est-il? Parce qu'en spectacle, pour l'avoir vu,
oui,
il peut être parfois cassant. Oui. Moi, je l'ai vu interrompre un trio parce qu'il reprochait au contrebassiste de ne pas suivre son tempo. Devant toute la salle,
ah,
il
oui,
l'a fait.
Vous avez vu ça, vous?
Oui.
OK, alors moi c'était encore avec son trio, la lumière en haut. La lumière émettait là, un 440, probablement un la. Arrêté de jouer, puis il a demandé à la Place des Arts d'aller dévisser la lumière, carrément.
Ça ne m'étonne pas.
Ouais. Pourquoi fait-il ça? Parce que tout ce qu'il fait est enregistré. En fait, un spectacle est un studio pour lui.
C'est vrai.
Et tous ses albums, il va les sortir parce que là, on vient d'apprendre, malheureusement, qu'il ne pourra plus jamais rejouer suite à 2 accidents vasculaires cérébraux qui l'ont paralysé d'un côté. Il n'est plus capable de jouer. Alors, on va avoir un leg là parce que ECM a tout enregistré. On va en avoir pour probablement un siècle encore.
Il n'y a pas que le concerto
non.
de Cologne.
Non, c'est ça. Voilà, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Keith Jarrett, c'est un univers en entier.
Il y a un album, vous dites tous les posséder, mais moi qui me fascine à chaque fois que je l'écoute, c'est celui qu'il avait enregistré, encore une fois des improvisations, dans une cathédrale de... Je pourrais pas dire, je pense que c'est des Pays-Bas, mais je suis pas certain. Ça s'appelle « Hymn and Remembrance », je pense. Mm-hmm. C'est des improvisations à l'orgue.
À l'orgue, oui, totalement.
Et c'est formidable.
Oui, oui.
Jean-Sébastien Bach, quand on serait tombé de sa chaise.
Oui, il a même joué avec l'orgue. Il en a enlevé, retiré certaines pièces.
Voilà.
Pour le modifier à ce qu'il entendait dans sa tête, qu'il ne pouvait pas reproduire sur un orgue standard. Et j'ai des amis organistes qui m'en ont déjà parlé. Et ils sont aussi même un peu impressionnés par ce jazzman, n'est-ce pas, qui est un bum, en fait, qui n'a jamais gradué, qui est un autodidacte et qui est capable de faire ce genre de création.
Mais qui nous amène par un processus que vous pouvez peut-être mieux connaître que la majorité des gens, par un processus cervical, mais qui nous amène à voyager, à rêver, à rejoindre notre côté cérébral rigoureux et à la fois peut-être celui qui est probablement plus enfoui dans notre cerveau, celui des émotions.
Parce que la musique, je le décris bien dans le livre, j'ai tenté du moins, touche beaucoup, beaucoup de régions. C'est probablement la forme d'art qui touche le plus de régions dans le cerveau et beaucoup dans le système limbique. Et ça, c'est le système des émotions. Alors, oui, ça va rejoindre les mémoires, ça va rejoindre toute la gamme des émotions et ça se ramène dans le cortex et ça se ramène dans la cognition. Et on découvre, bon, par exemple, je crois que ce qui est le plus dramatique dans le livre que je raconte, c'est ceux qui souffrent d'Alzheimer, comment la musique a un impact et peut réveiller des régions encore actives, mais qui commencent à être attaquées par la maladie, mais qui les transforment et ils se mettent soudainement à chanter, à parler. C'est un petit miracle qui se produit, la musique est miraculeuse.
Michel, puisqu'on parle du rêve, moi je vais vous proposer une pièce de Biagio Antonacci,
ah oui,
qui est un chanteur très très connu en Italie et qui parle justement du rêve, qu'il faut rêver. La chanson a pour titre Sognami et elle est interprétée donc par son auteur-compositeur Biagio Antonacci. Vous voyez, c'est très rythmé, c'est pas Keith Jarrett, mais c'est vraiment très beau.
Bon, allons-y.
Che questa mia canzone arrivi a te. Ti porterà dove niente nessuno ascolterà canterò con poca voce, sussurrando te. E arriverà prima che tu ti addormenterai. E se mi sognerai dal cielo cadrò, e se domanderai da qui risponderò, e se tristezza e vuoto avrai da qui cancellerò.
Avec Michel, le temps passe de façon ultra rapide. C'est parce qu'on a des pièces qui sont longues, mais qui valent vraiment la peine d'être entendues. Vous êtes d'accord avec
moi? Ah, moi, la musique, je ne dis jamais non.
Ce que je voulais aborder, on aura sûrement l'occasion de poursuivre la conversation la semaine prochaine. Dans votre livre, vous dites que les chercheurs ont découvert depuis un quart de siècle, et vous en parliez tantôt avec Henri Laborit, beaucoup de choses sur le fonctionnement du cerveau, et particulièrement sur le fonctionnement de l'organisation de la musique au sein de notre cerveau. Je pense qu'on va y revenir la semaine prochaine parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Puis on n'a même pas parlé de votre deuxième livre.
Mais non.
Mais on va en parler quand même parce que vous allez nous revenir la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Alors, le temps de vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision de Valérian Fournier, Armand Dubois à l'animation-réalisation. Notre invité cette semaine, Michel Rochon, qui va faire le grand honneur de nous revenir la semaine prochaine pour parler de cette merveilleuse machine qu'est le cerveau. C'est plus qu'une machine, hein?
Oui, c'est plus qu'une machine.
Alors, au plaisir. Et on va terminer l'émission, Michel, en vous faisant plaisir. On va écouter Keith Jarrett.
Oui, dans ses rappels de ses spectacles, celui-là, blues, c'est enlevant, c'est prenant. Pourtant, c'est tout simple, tout petit, mais tout grand en même temps.